Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici effectivement un petit peu en retard, mais ça valait bien la peine finalement. Donc nous sommes ici aujourd'hui donc afin d'essayer d'apporter un éclairage nouveau sur un point qui est fondamental, propre à chaque être humain. Comment ne plus souffrir ? C'est bien là une question empreinte d'ambiguïté, voire osée, car elle laisse supposer en filigrane qu'il existe une solution miracle afin de ne plus souffrir. Tel un médicament ou un traitement que l'on pourrait prescrire définitivement à ceux qui ont mal, comme le font déjà les médecins du corps ou de notre esprit, en tentant d'éradiquer ponctuellement la souffrance physique et mentale. Alors, sauf que cette fois, cette question de comment ne plus souffrir sous-entend une réponse prescrite à l'ensemble de nos maux et de nos douleurs, et cela à longue durée. Mais de quoi parlons-nous au juste lorsque l'on parle de souffrance ? La définition du petit Robert emploie dans un premier temps, pour définir ce mot, les termes de patience. Patience, endurance, tolérance. Curieusement, les mots peine et douleur ne sont que la seconde définition du dictionnaire. Pourtant, pour le commun des mortels, souffrir équivaut bien à subir une peine, un chagrin, ou bien au-delà du psychisme, en souffrance, c'est vivre une douleur physique. On ne voit donc pas pourquoi on retiendrait les termes de patience, endurance et tolérance. La seconde définition du petit Robert nous permet donc de nous rendre compte que notre souffrance est immédiate, ressentie, perçue dans l'instant, comme un unique objet existant, présent, dans l'ici et maintenant, comme une oppression intolérable au moment où elle nous apparaît. On a les yeux fixés, rivés dessus, comme un bûcheron aurait le visage collé sur un tronc d'arbre, celui qu'on lui demanderait de scier avec une scie à métaux. Ce n'est que le fait de prendre un peu de recul face à son arbre qui lui permet de se rendre compte que la tâche, finalement, est tout à fait possible. Grâce à la distance, elle lui permet de voir que ce tronc d'arbre, l'objet de son tourment, ne fait en fait que 5 cm de diamètre. Les termes patience et tolérance employés par le petit Robert invitent donc, en premier lieu, à mettre de la distance, à observer, à se détacher face à l'observation d'un fait, en l'occurrence, celui-ci étant celui de la souffrance. Vous pouvez penser qu'il est facile, en théorie, effectivement, de prendre du recul face à la douleur et que sur le terrain, la réalité est tout autre. Effectivement, sur ce point de vue, je suis tout à fait en accord avec vous et je vais vous proposer d'observer la souffrance, mais sous un nouvel angle. Ainsi, de tenter de faire un lien, certes un peu trop succinct à mon goût, mais nécessaire entre les méthodes thérapeutiques existantes déjà, face au concept que j'ai créé il y a maintenant quelques années et que j'ai appelé métaconscience. Afin d'être mieux en lien avec vous, et notre sujet, je pense qu'il faut dans un premier temps que je me présente. À 36 ans, j'ai payé de ma personne en termes de souffrance grâce à un parcours personnel empreint de douleur. Et là, il me semble normal de parler d'un sujet que l'on connaît que si nous l'avons éprouvé nous-mêmes, en notre être intérieur. Mon médecin généraliste m'a diagnostiqué une cirrhose du foie à 23 ans. Peut-être que je manquais de foie. Allez savoir. Par la suite, à 29 ans, un autre de ses confrères me donna une année de sursis en regard de mes graves troubles cardiaques. Je les avais développés à l'époque. Et en effet, je me levais avec une tension artérielle de 19-10 au saut du lit. Mon cœur se brisait, voilà tout. Un divorce catastrophique un an plus tard. Tout cela saupoudré d'alcool. De 37 kilos bien gagnés, mais difficilement perdus par la suite, des catastrophes financières chroniques et gargantuesques, deux enfants pris en otage par une femme, une ex-femme en souffrance, tout cela ponctua mon parcours personnel ces quelques dernières années. D'un point de vue professionnel, j'ai encadré de nombreuses personnes en grande difficulté, et cela en tant que formateur chargé d'insertion sociale et professionnelle de publics dits « difficiles », avec des profils de personnes toujours en rapport avec la drogue, la délinquance, la violence, qu'elle soit sexuelle ou autre. C'est avec eux que j'ai commencé à mettre au point cette approche métaconsciente, avec un succès étonnant sur leur comportement à la suite de quelques mois de cohabitation en stage. Stage d'insertion, bien entendu. J'ai dirigé par la suite un centre de formation d'insertion et enfin la délégation des paralysés de France, des Vosges, où j'ai pu vérifier sur le terrain ce qu'est la souffrance dans la différence et bien trop souvent dans l'indifférence. L'approche thérapeutique métaconsciente que je propose est donc le produit de souffrance, de la souffrance observée au travers de mon ego, c'est certain, ce fameux ego dont nous allons reparler, mais aussi au travers du regard des autres, de tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de mon être, de mon entourage proche ou plus distant. Parlons-en de cet ego. Un matin, au lever du lit, j'ai pris le temps de l'observer. J'ai vu la tête dépitée qu'il me faisait, et là, fatigué, je lui ai donné congé. Ce matin-là, c'est là que métaconscience est née. Métaconscience est un néologisme qui se décompose en deux mots. Méta qui vient du grec, qui signifie ce qui va au-delà, ce qui englobe avec l'idée de mouvement et d'évolution. Conscience reprend l'idée de faculté de perception de l'information et de connaissance qui permet de se situer dans un espace-temps. Métaconscience est donc le produit de mes observations et ressentis extérieurs et intérieurs. Une sorte d'hypothèse qui présuppose qu'il existe un flux intelligent, une sorte de force intelligente, une énergie organisationnelle qui soit créatrice et création à la fois de ce que j'observe, mais qui a la faculté de réguler nos douleurs et de les analyser afin de les suspendre, de nous permettre de percevoir ces informations de façon plus relative. Métaconscience ou la métaconscience part du principe que chaque individu a une conscience propre qui est en interaction avec celle des autres. Un regard analytique individuel et collectif qui est en interaction avec ses semblables. Cette conscience à deux dimensions, bipolaire et unitaire à la fois, constitue une sorte de dimension collective et individuelle où chaque information, chaque émotion, quelle que soit son origine, circule en l'homme et dans la collectivité, jusqu'à devenir un élément, une force qui crée aussi bien l'image de l'homme que celle du monde qui l'entoure. L'homme, la perception humaine au centre du tout, celle qui construit une partie du monde, de son monde, l'homme qui crée sa vision du monde, une réalité, sa réalité. Cela paraît compliqué à première vue, mais il n'en est rien. Que nous propose-t-on aujourd'hui afin de diminuer notre souffrance? Nous avons le choix entre diverses thérapies, de quelques séances à une dizaine d'années. L'amplitude est phénoménale. On aborde la réponse à la souffrance avec une vitesse différente. C'est un fait. Le résultat également. La psychanalyse n'a pas, d'après sa définition, pour priorité de guérir, mais de dénouer l'énigme du symptôme, plutôt que de chercher à le faire disparaître. On nous propose de trouver le pourquoi à notre souffrance, et ça pendant des années. Comment en sort-on, soulagé? Il nous reste quand même à trouver le comment, le moyen de ne plus reproduire, de ne pas retomber dans la souffrance. En tout cas, tout ça, c'est l'image que l'on a fabriquée à l'extérieur, dont on nous parle de la psychanalyse ou dont on nous en a parlé. A contrario, les thérapies brèves travaillent peu sur le passé. Elle s'attache au temps présent, celui qui construit le futur. On cherche davantage à comprendre le comment sortir techniquement de cette souffrance en se coupant du passé et en négligeant peut-être ce douloureux vécu. Il faut faire vite et bien. D'où que l'on se place afin d'observer les solutions anti-souffrance, aucune thérapie de nos jours est capable de traiter la globalité de l'être, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur, en y associant toutes les dimensions de la personnalité du patient, et encore mieux, toutes les dimensions humaines, voire universelles. Il existe toujours une question brûlante qui demande pourquoi tant d'approches thérapeutiques différentes, parfois opposées, et qui suivent toutes cependant une même volonté, celle d'aider le patient à comprendre sa douleur et à l'aider à en sortir. Autant de méthodes que de possibilités de percevoir sa souffrance, mais combien d'approches existent-ils en rapport avec la totalité de notre être ? Nous ne sommes pas faits que d'une seule cellule, d'un seul composant chimique, d'un seul organe. Par conséquent, la réponse à la question souffrance s'inscrit naturellement dans une approche globale, diversifiée et interactive. Mais quelle thérapie pourrait amener une personne en souffrance à observer sa souffrance avec son ego, avec son âme, sa personnalité globale, réfléchie par le retour de l'extérieur, de ses amis, de sa famille, et pourquoi pas celui plus subtil, plus caché, celui de l'histoire du monde, de ses mythes, celui des archétypes, chez Jung par exemple. Bref, quelle thérapie objective et lucide pourrait, au travers d'un concept holistique, donc global, toucher et réveiller toutes les facettes intrinsèques à l'homme en souffrance afin qu'il se libère de ses maux, qu'il puisse comprendre le pourquoi universel de ses maux et le comment créer les conditions de la libération intérieure. Quelle thérapie aurait assez de corps afin de mettre en résonance, entendez sous ce terme de la raison, mais également celui de la résonance comme un écho intérieur amplifiant le pourquoi de la souffrance des êtres humains et les comment s'en sortir. Une résonance ou résonance comme une clé individuelle propre à chaque individu parfaitement conscient de la totalité de son être. Existe-t-il un kit thérapeutique global et individuel à la fois ? Un kit qui réponde au pourquoi de la souffrance tout en proposant le comment faire pour en sortir. La réponse en ce qui me concerne, peut-être prétentieuse, et oui, c'est après une dizaine d'années de recherche personnelle, de confrontation et d'expérience, que j'ai acquis la certitude qu'il manquait une dimension essentielle aux thérapies actuelles. Une dimension méconnue, cachée, parfois rejetée, violemment. Je veux parler de la dimension intuitive. Alors, avant d'aller plus loin dans ma démonstration, je tiens à préciser que la thérapie métaconsciente est détachée de tout mouvement quel qu'il soit politique, religieux, sectaire, scientifique ou autre, il est indépendant. Cette approche est encore expérimentale, mais déjà prometteuse dans ses résultats, et j'invite toutes les personnes en recherche de psychologie de l'être à partager avec moi le fruit de leurs réflexions, quelles qu'elles soient, notamment ceux orientés vers les enfants. Afin d'étayer ma démonstration, je me permettrai de m'appuyer sur les grands courants de pensée psy en démontrant les rapprochements qui me semblent évidents avec ma théorie. Je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste érudit. Je suis uniquement un chercheur en écologie de l'être. Quels sont les fondements de la thérapie métaconsciente ? En premier lieu, elle part du fait que tout travail analytique est le produit d'un acte volontaire et personnel. On le retrouve dans d'autres courants de pensée. Son objectif est de rendre au patient son autonomie de pensée. Et ceci après avoir fait une analyse à 360 degrés de sa personnalité, avec son concours, pour faire émerger les moyens de retrouver l'harmonie intérieure. Cette thérapie devient en fin de parcours un outil autorégulateur de la gestion de sa souffrance. Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Quels sont les fondements de base de cette thérapie métaconsciente ? Elle utilise les moyens classiques d'analyse psychologique, grille d'analyse, etc., en balayant donc toute la personnalité du patient. Son passé, son présent, ses projections, ses perceptions élémentaires liées à la vision de son monde et de son vécu, de ses états d'enfant à celui d'adulte et de parent, ainsi que toute la somme de ses valeurs et de ses aspirations profondes, spirituelles, humaines. Cette analyse s'opère dans une guidance semi-directive, utilisant l'analyse rationnelle du thérapeute, mais également celle plus subtile, objet de turbulence parfois, l'approche irrationnelle, l'approche intuitive, la sienne et celle de son patient. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on emploie le terme « intuitif » ? L'intuition est une sorte de langage de communication caché au centre du cerveau humain. Une collaboration entre hémisphère gauche, la logique, et hémisphère droite, l'émotionnel. Collaboration surprenante d'où jailliraient nos intuitions. Cet acte de perception instantanée saisit la vérité sans l'acte de raisonnement. Une connaissance donc implicite que certains analystes réfutent par manque de preuves scientifiques de l'existence réelle de cette information. Pourtant, à bien y regarder de près, l'analyse du système psychique en dysfonctionnement n'est pas davantage lamélisable. Notre matière étudiée est un sentiment, donc volatile, subtil. Cependant, on travaille sur l'inconscient et la conscience comme s'il s'agissait d'une charcuterie que l'on saucissonne par tranches distinctes, en oubliant que c'est un tout, relié par des informations qui circulent librement, défiant parfois nos lois matérielles, et je pense à la formule E égale MC2 d'Einstein. Une information peut devenir énergie ou matière. Le conscient et l'inconscient, pour la théorie métaconsciente, sont l'empreinte des sens. Des cinq sens essentiels, ceux que l'on voit, mais aussi tous ceux que l'on ne peut prouver, que l'on a oubliés en revêtant notre conscience matérielle. Freud, dans Totem et Tabou, parle d'âme collective, d'une sorte de reliance. Jung, quant à lui, prend à son compte la dimension spirituelle. Et il la complète, cette vision, au travers de phénomènes de synchronicité, d'archétypes et d'inconscient collectif. Tout cela n'est pas très rationnel, mais sert bien cependant de moyen d'analyse depuis des générations. Maslow parle de sa conscience unité. Il parle d'universel dans le particulier et d'éternel dans le temporel. Nous ne sommes pas dans un film fantastique de série B, mais bien dans la recherche de la connaissance de l'essence, la nature de l'être. Bref, la connexion avec tous nos sens. Autant dire que nous sommes tous à la recherche de connaissance. Ce terme fut une révélation accidentelle lors de l'une de mes consultations. Je voulais dire à ma patiente, je voulais lui dire, il faut que vous soyez en connexion avec l'essence, avec la connaissance, avec tous vos sens. Et je lui ai dit, soyez donc en connexence. Un accident heureux. Connexance donc avec trois orthographes différentes. L'une alliant la connexion donc et l'essence, l'autre la connexion avec la connaissance, et enfin la connexion avec sens. La connaissance est la façon de rechercher l'essence de notre être et de réapprendre qui nous sommes vraiment en autonomie de pensée, en décloisonnant les courants de pensée, afin de les unir dans leurs moyens qui vise l'analyse, l'observation et la compréhension de la souffrance. La connaissance est une réponse à notre souffrance intérieure, qui devient une réponse extérieure par résonance ou résonance. Un proverbe tibétain dit « Chercher le bonheur en dehors de nous, c'est comme attendre le soleil dans une grotte orientée au nord. » Connaître déjà les fondements et schémas de notre personnalité, nos limites, sont nécessaires par l'analyse psychologique clinique dite classique, mais pas suffisant. On se doit de regarder son passé, mais aussi et surtout de ne pas se confondre avec lui. Il ne faut pas se limiter à ce petit carcan d'observation. On analyse pour comprendre les mécanismes, mais on ne nage pas constamment dedans pendant des années. Le champ d'introspection de la douleur est plus vaste, aussi large que notre nature. La connaissance, c'est aussi se détacher des faits, des choses et des personnes, en ne les voyant uniquement que comme un sujet de réflexion et non pas un objet réel qui nous appartient. Selon les scientifiques, un atome est constitué de 99% de vide. Nous sommes composés d'atomes. Déduction, nous sommes faits de 99% de vide. Les physiciens quantiques, notamment, nous disent aujourd'hui que notre monde n'est que virtuel, que nous ne sommes en fait que des ondes vibratoires qui créent une réalité, une apparente matérialité des choses, et ceci dès que nous faisons l'acte d'observation. Il est vrai que les couleurs n'existent pas. Le rouge est une longueur d'onde, perçue par l'œil sans plus. On croit bien voir rouge au-delà de nos humeurs parfois. Et là, le coup est rude, c'est vrai. C'est un peu comme si on venait de nous dire que nous n'existions pas et que nos souffrances ne sont que des illusions. Notre ego se rebiffe. L'ego métaconscient n'existe pas de la même façon que son petit frère, l'ego tel que l'on l'entend couramment. Il est formellement distinct de notre personnalité, qui, elle, est construite du tout, de la globalité des consciences, de la métaconscience et de son interaction. L'ego tel que l'on le perçoit aujourd'hui est notre souffrance, car il étouffe notre libre arbitre originel, cette liberté si précieuse. L'ego prend du coup une importance énorme, et cela grâce à une société individualiste et matérialiste, dite normée. L'approche métaconsciente de la vie joue sur le fait que l'homme est à l'image de l'univers et vice-versa. Elle joue aussi sur le fait qu'une information attire le même type d'information. Par là même, l'attitude à adopter pour un être humain en souffrance est de prendre conscience de la non-matérialité des choses et des événements, et surtout de leur possible évolution. Évolution non pas par l'extérieur exclusivement, mais par la modification de la perception de ce qu'est l'intérieur et de ce qu'est la connaissance avec la métaconscience. La connaissance, ce n'est pas se poser la question du pourquoi de la souffrance éternellement. Nous sommes déjà dans le comment sortir. Le pourquoi est la nourriture de l'ego, le passé, des peurs orchestrées par l'extérieur. En fait, il n'a d'intérêt, et il en a un, que si on ne fait que l'observer pour s'en servir vers la voie du comment. Le comment demande un effort, une volonté, celle de laisser le poids lourd d'une longue souffrance de côté pour enfin observer la vraie réalité de la nature des choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter ? Le poids de la souffrance du passé, ou le fait de le déposer, de ne plus en faire son compagnon? Qu'avons-nous à perdre, si ce n'est le poids de notre douleur? Le philosophe Alain disait « Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois au feu au lieu de pleurer sur ses cendres ?» Au-delà de l'analyse du « moi », du « je », et si l'on veut bien accepter que toute analyse existante soit complémentaire et congruente, on entre alors avec la dimension intuitive dans l'analyse globale de l'essence de l'être, de la personnalité, de l'âme individuelle et collective. Notre nature devient ainsi donc individuelle et collective. Aider le patient à s'entendre lui-même, comme le fait le psychanalyste, doit dépasser le stade de l'écoute de l'ego. Nous devons lui permettre d'entendre toute sa dimension globale par le biais d'outils intuitifs complémentaires. C'est un langage associé à l'analyse qui est une autre forme de communication, une autre résurgence des mots. Les moyens de connaissance sont donc bien simples, finalement. J'ai mis en place, lors de mes thérapies et de mes stages, de nombreux outils qui font souvent sourire. Les personnes me disent « Ah oui, c'est vrai, c'est simple, mais c'est vrai, c'est tellement simple, on connaît ça, on le connaît depuis longtemps, ça fait 20 ans qu'on nous en parle. » Tellement simple et connu que personne ne les applique jamais. Trop pressé, trop vite, tout de suite. Observation, analyse, constat, positionnement, action. Voici 5 axes de ma boîte à outils que tout le monde croit appliquer au quotidien. Alors que bien souvent, on saute allègrement 2 ou 3 axes afin de se couper de la réflexion. Tout ça pour faire vite. Du coup, la souffrance est au rendez-vous. La connaissance, c'est donc aussi le temps. La souffrance d'un fait insupportable à un moment donné paraîtra très supportable des années plus tard. Pourquoi ? Pour répondre au plus près de la demande de chaque individu en souffrance, j'ai mis en place des moyens simples, mais efficaces, qui permettent à chaque personne de se ressentir en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'être humain, inclus dans un tout interactif et dont il peut se servir. J'utilise essentiellement le téléphone, qui devient canal de transfert, une voix aux 2 orthographes, une voix de communication orale, élaguée de jeux de séduction. Ainsi, la connexion est dépolluée de ceci. On entre directement dans le processus du transfert. Des écrits ciblés de la problématique et des thèmes abordés sont demandés entre chaque séance. Reprenant une grille d'analyse précise et qui fait tout aussi bien appel aux archétypes qu'à l'analyse des rêves, ainsi qu'au raisonnement logique et cognitif. Un travail mental, de l'imaginaire et de visualisation est au centre de cette thérapie holistique. J'utilise notamment la notion de son intérieur. Une vibration, en rapport avec un état émotif positif, reproductible dans tout état de crise. De grands thèmes standards reprennent la philosophie métaconsciente, telles que les notions d'intérêt, d'enjeu, de pouvoir, ou encore les notions de charge binaire, d'entropie, ou d'énergie mentale créatrice. Et c'est aussi, bien évidemment, l'acte de conscience intuitif du thérapeute qui oriente parfois, grâce à sa perception d'informations particulières, le patient vers les chemins du dénouement d'une difficulté passagère. Au fur et à mesure de l'avancée en ouverture de conscience du patient, on assiste à une libération grâce à une autorégulation, à une autogestion de sa souffrance. Il s'approprie des outils simples qu'il peut utiliser dans les moments critiques. Les douleurs ne disparaissent pas forcément comme par enchantement. Elles sont perçues autrement, en détachement, en rapport avec ce qu'est réellement la réalité. C'est-à-dire, comme je le disais plus haut, constitué de 99% de vide. Il est utile de comprendre et d'accepter les causes de sa souffrance. Mais il est encore davantage de pouvoir devenir autonome dans la perception de celle-ci tout au long de sa vie. L'essentiel est de ne jamais vouloir convaincre personne de quoi que ce soit. Juste inviter l'autre à entendre l'écho de lui-même, par résonance de sa nature originelle. Alors, avant de clore cette très très brève approche métaconsciente, j'invite toutes les personnes ici présentes à sentir cet état de conscience vrai, celui qu'ils connaissent, qu'ils ont connu autrefois, souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant. Les enfants, ceux dont je m'occupe, me surprennent sur leur capacité de dépasser rapidement leurs difficultés. Venant à peine d'arriver ici-bas, emprunt encore de cette conscience vraie, la nature même de la métaconscience, nous autres adultes qui avons oublié ce fait, tentons rapidement de convaincre ces petites personnes de l'importance de l'ego et de l'importance de la réalité matérielle des choses. Retourner à l'essence de notre nature est bien plus simple que de subir la pression de l'extérieur. Lorsque j'étais élève infirmier dans un service d'enfants, presque condamné, je fus surpris de leur détachement face à leur douleur et de la joie que chaque instant leur procurait. C'était là l'expression de petites personnes, encore vierges de prêt-à-penser, juste l'expression de la joie de savoir que la peur se fabrique au travers du regard, et là, en l'occurrence, ceux des adultes. Soyons simplement comme ces enfants, vrais et conscients de la nature de la vie et de ses fondements, afin que chacun comprenne comment finir avec sa souffrance. Sophie, 8 ans, une enfant enfermée dans une forme d'autisme, dont je me suis occupé, a construit elle-même sa porte de sortie du silence et des émotions exprimées. Tout cela en 3 mois. Avec son imaginaire, des grilles de lecture forcément adaptées et de nombreux dessins, l'acceptation sans limite du son vibratoire qui était inscrit dans son bracelet magique, des perles que j'avais enfilées moi-même, elle s'est transformée en fée, comme elle le souhaitait au départ. Il faut admettre que d'avoir eu des parents en thérapie pendant quelques mois auparavant a quand même favorisé son éclosion. Quels que soient les courants de pensée qui analysent aujourd'hui la souffrance, spirituelle, religieuse, psychologique, scientifique ou médicale, tous parlent la même langue, avec des mots différents. Ils cloisonnent notre personnalité en égo, en individu unique, dans des petites cases, avec des petites étiquettes, nous empêchant du coup de prendre ce recul et de retrouver l'essence de notre nature. Ce que par contre savent très très bien faire les enfants, revenir à l'essence de leur nature. Le dernier mot que je souhaiterais pouvoir dire après cette démonstration de ce concept global, c'est que même si l'homme, selon Freud, est animé d'une pulsion inconsciente de mort, ce n'est pas par volonté d'autodestruction. Non, je ne le pense pas. Simplement parce qu'il sait qu'au-delà de son apparente réalité, se cache une réponse au mystère de la vie et de son évolution, assez vraie et forte pour lui faire sentir qu'il se doit d'être à l'écoute de sa globalité, de son intuitif, au-delà de l'apparente matérialité de la vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie.
Merci. Avez-vous quelques questions? Oui, à vous entendre, j'ai l'impression qu'avec la métaconscience, on n'a plus besoin des autres, ce qui me semble remettre en question la dimension relationnelle de l'individu.
Alors, votre question, je crois que effectivement, ça mérite un large débat. Métaconscience signifie justement interaction avec toutes les consciences. C'est connecter avec toutes les consciences qui sont autour de nous et décloisonner tous les courants de pensée. Donc c'est entrer en fait en communication avec les autres, mais en ayant pris conscience de ses propres limites pour ne pas laisser les autres finalement prendre possession de la barre du navire. Voilà, j'y arrive. Donc métaconscience, comme le dit son nom, c'est vraiment un concept global et unitaire à la fois. C'est cette capacité de pouvoir se recentrer sur son importance, sur l'importance de sa personnalité, de ses potentialités, de les développer grâce au concours des autres, et surtout les autres unifiés, multiples, parce que On a de très bonnes choses en psychanalyse, on a de très bonnes choses dans d'autres approches psychologiques. On a vraiment de très très bonnes choses partout. Pourquoi s'amputer finalement, sous couvert de vouloir tirer la couverture justement de son courant de pensée? Je pense qu'il faut avoir une dimension beaucoup plus large et démystifier surtout ce que moi j'ai appelé cette approche dite intuitive, qui est aussi une approche nécessaire à mon sens. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, mais j'aimerais un peu le dossier.
Ah, allez-y.
Parce que l'approche de la métaconscience est basée essentiellement sur l'approche de la souffrance. Est-ce que je peux l'étendre à la douleur ?
Tout à fait. L'approche métaconsciente ne s'arrête pas à la souffrance. Alors la souffrance physique, la souffrance psychique, la douleur. Je l'ai perçu. J'ai pu construire, disons, ce concept au travers d'un parcours, comme je le disais, professionnel. À l'Association des paralysés de France, on rencontre des personnes qui sont dans le cadre de douleurs psychiques, c'est certain, mais surtout physiques, avec des difficultés assez phénoménales et qui vous remettent vraiment en conscience, qui vous remettent d'aplomb par rapport à vos propres souffrances, même quand on a eu un vécu, peut-être comme moi, un petit peu particulier, si jeune. Je me suis trouvé tout petit et j'ai retrouvé l'essence de ma conscience. D'autres questions, peut-être ?
J'étais assez perdue au milieu de tout ce que vous avez présenté ce soir, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me fait penser aussi aux civilisations amérindiennes, où beaucoup nous approchent aussi des traditions aussi diverses qui sont. Et voilà,
c'est complexe.
C'est votre approche qui est complexe. Voilà. Je pense que, vous dites des tas de choses qui sont de bon sens, enfin, puisque vous prenez la psychanalyse comme appui, et puis vous rajoutez cette intuition d'un thérapeute qui joue sur son intuition, qui se sert de son intuition comme il peut se servir de ses tripes, de son mental. Donc, j'ai l'impression que. Pour moi, hein, c'est moi qui parle, je ne veux pas être du tout blessante, mais qu'il y a un petit peu comme une inflation peut-être de votre ego, et que, je me ressens comme ça.
Mais je peux.
Vous me livrez d'un parcours, bon, ça a beaucoup de valeur, ça a beaucoup de votre souffrance, votre remontée vers la vie, ça c'est très très riche. Mais je trouve qu'il y a un peu des débordements, mon bon sens est un petit peu bousculé, et je trouve que, je ne vais pas rentrer votre propos avec ce qu'on peut appeler le New Age, c'est-à-dire un mélange intelligent de tas de choses qui sont, mais est-ce qu'on a besoin de les remettre?
Très très intéressant. Alors j'attendais qu'on généralement me pose cette question, et j'aime bien qu'on me la pose. Ça me permet justement de pouvoir répondre sur plusieurs points. La première, c'est que cette approche est effectivement relativement complexe, mais elle est à l'image de la vie. La vie n'est pas simple, l'organisation même l'organisation cellulaire est formidablement bien orchestrée, mais elle n'est pas si simple que ça. Ce sont des éléments, plusieurs éléments complexes qui se mettent en place pour évoluer. Donc elle est complexe, mais pas tant que ça non plus, car lorsque vous employez le terme New Age, j'ai envie de dire pourquoi finalement se couper d'une approche qui, pour certains, va être New Age, oui, avec l'intuitif, avec effectivement ces approches amérindiennes aussi, ou alors la Ayurveda, je pense à d'autres approches. Pourquoi s'amputer finalement de méthodes qui ont déjà fait leur preuve depuis des millénaires, alors qu'en fait, on peut tout à fait imaginer, quand vous avez un patient en face de vous qui a ses valeurs et des convictions qui sont totalement différentes, par exemple, que la société occidentale, dans l'approche métaconsciente, on a aussi des outils qui sont en rapport avec avec son origine. Donc à ce moment-là, il y a adaptabilité complète, totale, par rapport, on peut répondre également à cette personne au travers donc de son système d'aspiration, de valeur. Et ça, c'est important. Donc, elle est très très complexe. C'est encore à l'étude, c'est encore expérimental, mais les résultats pour l'instant sont assez assez importants, assez phénoménaux, puisque chaque personne se retrouve finalement, choisit quelque part ses outils, choisit selon ses propres perceptions comment est-ce qu'il souhaite sortir de sa souffrance, au plus près au départ de ce qu'il est, et au fur et à mesure, on ouvre un petit peu l'entonnoir pour lui montrer qu'il y a une dimension au-delà de sa propre dimension personnelle.
J'entends ce que vous dites, mais ça ne me convainc pas, parce que je trouve que quand on fait un travail approfondi ou une analyse, de toute façon, au bout, il y a les questions existentielles qui se posent. Donc, de toute façon, c'est pas nouveau.
Tout à fait.
C'est pas...
Tout à fait.
Bon. Vous avez rassemblé tout ça, c'est bien,
mais c'est absolument pas nouveau.
Je pense que l'intuition, c'est quelque chose qui fait partie de l'approche thérapeutique évidente.
Oui, mais on n'en entend pas tellement parler. Peut-être que moi j'ose. Alors, qui peut prétendre aujourd'hui être assez prétentieux pour dire moi j'ai créé quelque chose de nouveau? Non, surtout pas. Je n'ai absolument rien créé de nouveau. Ça, c'est totalement faux. Je ne pourrais pas me permettre de dire ça. Je n'ai fait que mettre en forme, sous un angle différent, une approche et un regard différent. Mais absolument pas quelque chose de nouveau. Ce serait extrêmement prétentieux de ma part. Et ça, c'est très très important. Je vous remercie de l'avoir souligné.
Oui, souvent on dit que la nouveauté vient d'une réorganisation des connaissances, plus que d'une nouveauté elle-même. Je voulais vous demander l'intuition que vous mettez en avant. Est-ce que c'est pas juste l'intuition qui est naturelle chez tout le monde et qui vient comme ça, comme d'une, comme une sorte d'agglomération de toutes nos connaissances et qui instantanément nous donne une vision de la chose? Est-ce que ce n'est pas tout simplement quelque chose qui se fait dans un premier temps et que le deuxième temps est forcément une approche rationnelle? Après cette première approche intuitive.
L'approche intuitive, lorsque on a fait les dernières études, notamment je parle en physique quantique, en physique nucléaire, donc on est loin de la psychanalyse, mais si on fait les liens entre cette approche-là et puis l'intuition, on se rend compte finalement l'intuition, c'est quelque chose d'inné en chacun. Ça, c'est clair. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on va apporter de l'intuition et que les gens n'en ont pas. Si certaines personnes pensent que je suis en train de dire qu'elles n'ont pas d'intuition, qu'elles ne travaillent pas avec leur intuition, etc., etc., je suis désolé, ça n'est absolument pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des thérapeutes, et c'est mon cas, qui ont certainement une forme intuitive beaucoup plus développée que d'autres et qui l'utilisent. Maintenant, je pense qu'il y a des outils pour développer l'intuition, c'est ce que je fais également. Et c'est ce qui fonctionne. Donc, je crois qu'il n'y a pas, quand on parle notamment, puisque j'ai déjà entendu, on me l'a dit aussi, mais vous parlez de voyance, etc., de dons de voyance, de choses comme ça, je tiens à préciser tout de suite que je parle de faculté de perception et non pas de dons mystiques. C'est tout à fait autre chose. Donc, mais il faut justement démystifier ce genre de choses pour oser en parler dans les thérapies qui peuvent être mises en place, tout simplement pour empêcher aussi n'importe qui de dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Donc c'est aussi important de le démystifier.
Bonjour.
Bonjour.
C'est intéressant de, si on parle d'intuition, parler de M. Jung.
Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste et je ne tenterai pas ce genre d'approche, puisque je crois qu'il y a trop de personnes dans cette salle qui sont certainement bien plus qualifiées que moi. C'est un peu dommage, oui, mais je ne peux pas tout faire. Vous avez bien compris, comme Madame l'a souligné, c'est un travail déjà d'une dizaine d'années, qui m'a demandé une dizaine d'années. Et c'est un...
Non, mais c'est dommage, mais c'est, par là, ça vous dépendrait, parce que justement, Jung lui dit qu'il y a des fonctions principales, et entre autres, dans les fonctions principales, l'état de la pensée et du sentiment d'émotion, justement, il y a des sensations, il y a aussi la question.
Oui.
C'est quelque chose qui fait partie de l'être humain.
Oui.
C'est quelque chose qui est naturel. Donc, détendons-nous.
Détendons-nous. Détendons-nous, mais on fait ce qu'on...
Mais je me sens crispé.
Oui, non, alors la crispation, c'est un sentiment humain, c'est un phénomène aussi vibratoire, c'est aussi... Oui, mais tout à fait, elle est vraie. Quel orateur, au bout d'un moment, n'aura peut-être pas eu l'impression d'être en face de gens qui pensent différemment ou qui ressentent ces vibrations, justement, c'est tout à fait humain. Et en cela, je ne m'en cache pas, vous avez tout à fait une bonne intuition, monsieur, il faut la développer. Mesdames et messieurs, je vous remercie.